5, 4, 3, 2, c'est allez. Parti.
Moi, je suis avec toi.
François Perret, bonjour. C'est l'entretien du journal du pâtissier avec François Perret. 5, 4, 3, 2. Nous sommes dans la suite Windsor sur la place Vendôme. C'est l'hôtel Ritz, aussi légendaire que magnifique. Et aujourd'hui, c'est avec François Perret qu'on va essayer de tout savoir, en tout cas tout savoir sur lui. François Perret, vous êtes chef pâtissier de l'hôtel Ritz depuis sa réouverture en 2015, avec 7 points de vente différents. Vous avez une brigade Covid, on peut dire 17 pâtissiers et 6 boulangers environ, alors qu'il y a un temps, vous étiez à 30. Hein.
Là, on est 11 pâtissiers et 5 boulangers.
Ouais, mais demain sera meilleur.
Ouais, c'est sûr.
On est sûr. Vous êtes l'auteur d'un livre, Instant Sucré. Vous avez ouais. 289 000 followers sur Instagram et 202 000 sur Facebook. Donc, ça veut dire que vous vraiment vous occupez des deux. Et depuis le lundi 7 juin, le Ritz Paris Le Comptoir au 38 rue Cambon, c'était un cadeau d'anniversaire avant l'heure, puisque vous aurez 41 ans le 30 juin, ce sera ouais. l'occasion de fêter vos 25 ans de métier quand même.
C'est vrai.
Et c'était quand, c'était comment, c'était pourquoi la première rencontre avec la pâtisserie ?
Ah, la première rencontre. Bah, la première rencontre, hein, c'est un petit peu, je dirais, quelque chose d'évident quelque part. C'est une rencontre familiale, c'est une rencontre où c'est la grand-mère qui fait son gâteau mousseline. Hein. Donc elle le faisait un petit peu à toutes les sauces. Hein. Elle mettait soit une crème pâtissière à l'intérieur, elle le coupait en deux, soit un confit de framboise. Elle le glaçait au chocolat ou pas. Et ça, c'était ma première rencontre, je dirais. Voilà. Et ce gâteau mousseline, c'est un petit peu comme ça que j'imagine ma pâtisserie. D'ailleurs, c'est des gâteaux qui sont très souples, très moelleux. Il n'y a pas forcément de texture. C'est presque des nuages en bouche, quoi. Et ça a été mon premier souvenir. Après, il y a forcément la crème anglaise de mon père. Ouais, ça, c'est... Ah. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué dans la pâtisserie, c'est le côté... ça rassemble énormément, je trouve. Ça rassemble beaucoup. Et puis, très rapidement, on se rend vraiment compte que la pâtisserie, c'est ce qui vient clôturer quand même un petit peu tous les grands événements de la vie, quoi.
Et ce qui vous étonne le plus, c'est que quand les gens en disent qu'ils en redemandent.
Ben c'est ça. C'est souvent...
ça c'était magique. Hein.
Ouais.
Parce qu'il faut resituer. Vous êtes Poliatis,
oui.
habitant de Poliat. Jusqu'à 19 ans, c'est un village, mesdames et messieurs, de 2496
aujourd'hui.
Habitants.
Aujourd'hui,
c'est dans l'Ain, le 01. Votre maman est commerçant dans un magasin de déco et papa est thermicien conseil et
exactement.
Il a 8 frères et sœurs.
C'est ça.
Donc le dimanche, bah, les repas, c'est ça, c'est les gâteaux de mamie, c'est, ouais. et c'est ce partage, c'est, on commence à l'apéro
oui.
et on finit à la nuit.
Bah, on finit à la soupe à l'oignon, quoi. Finit à la soupe à l'oignon, je dirais, à partir de à 19h, quand on a fini le repas à 18h avec la clémentine, on attaque avec la soupe à l'oignon, quoi. Voilà, c'est comme ça que c'est bon, et puis on finit les restes le lendemain midi. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une famille nombreuse, c'est des événements qui sont importants. Et comme mon père étant le dernier de cette fratrie, du coup, nous on était les plus jeunes. Donc du coup, j'ai des cousins qui ont 55 ans et qui ont donc eux des enfants qui ont déjà 20 ans, 22 ans. Donc ça c'est important aussi parce que ça veut dire que du coup il y avait des enfants qui venaient avec leurs copines, certes, donc on se retrouvait vraiment nombreux quoi.
Ouais. Ouais. Et la pâtisserie ça devient un métier, mais parce que le cousin Nicolas il est pâtissier à Grenoble ou c'est parce que l'oncle il est pâtissier à Gap que vous décidez de faire ce métier ?
Je pense qu'effectivement le cocon familial avec donc l'oncle qui est aussi qui était mon parrain parce qu'il est décédé. Et mon cousin, qui était pâtissier, ça a forcément amené aussi un petit peu ce choix vers moi. Je pense que ce métier, je l'ai choisi aussi par rapport justement à tout ce côté un petit peu magique qui l'entoure. Après, quand je me suis lancé dedans, très vite, on comprend que c'est pas toujours aussi drôle. Ça, c'est clair.
Non, mais ça, c'est après mais, les années de formation, mais c'est le stage de troisième.
Oui, le stage de troisième, ouais.
C'est lui qui compte.
Ouais, le stage
c'est là
de
où
troisième.
Vous dites que le dessert, on en prend et on en redemande.
Ouais, c'est
et ça, c'est magique.
Ouais.
Hein, dans
ouais.
le...
Et surtout, on se rend compte que même quelqu'un qui dit qu'il n'a plus faim au moment du plat, bizarrement retrouve l'appétit au moment du dessert. Et ça, c'est drôle aussi. Et moi, ce que je trouve quand même très drôle, c'est que quand vous voulez priver vos enfants, ou quand on vous privait, étant enfant, de quelque chose, c'était forcément du sucré. Soit de friandises, soit de dessert, mais en aucun cas, on vous privera de soupe. Hein. Ça, c'est la, ça, la soupe, dans tous les cas, vous la mangerez, celle-ci. c'est clair.
Donc, enfant, vous faites du modélisme comme, comme truc loisir.
Je vais bien faire des fusées.
Plutôt du Balzac, que travailler le sucre. Mais en 96, c'est bon, c'est parti. Vous êtes apprenti pâtissier à la pâtisserie de la gare de Pierre-André à Bourg-en-Bresse. Ouais. Là, c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Un choc? L'envie redouble?
Je dirais que c'est la réalité. Je dirais surtout que c'est aussi un cloisonnement... c'est un cloisonnement sur l'extérieur aussi, parce que quand vous rentrez jeune dans un métier comme celui-ci, dans des villages et dans des petites villes, que vous avez dimanche après-midi et lundi de congé, tous vos potes, vous les voyez plus déjà.
C'est fini.
Terminé. Donc du coup, il y a un passage qui est quand même assez dur, parce que quand vous arrivez à Paris, c'est un peu différent. Paris est tellement grand que vous ayez un dimanche-lundi, un lundi-mardi, un mercredi-jeudi, un jeudi-vendredi, vous arrivez toujours à sortir. Et comme on est dans des structures qui sont aussi importantes, il y a toujours des gens qui auront des repos en décalé. Donc ça, c'est... Par contre, en province, c'est pas forcément évident.
En Bresse,
C'est pas évident. Au début, c'est pas évident.
C'est déprimant.
Ouais. Donc c'est vrai qu'au départ, il faut s'accrocher, parce que entre le changement de vie sociale et le rythme professionnel qui est quand même, dès le départ, assez soutenu, c'est vrai que c'est pas toujours drôle. Maintenant...
Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous y accrochez?
C'est bien. Eh ben, moi je m'y accroche, c'est parce magique. Que c'est magique déjà, et que je me retrouve vraiment dans cette dynamique de créer quelque chose de mes mains, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'aujourd'hui, moi ce que je trouve beau avec la pâtisserie, c'est que avec des ingrédients qui n'ont aucune tenue, vous arrivez à créer quelque chose. Qui en a une?
On peut faire une pièce en sucre magique.
Aussi.
Voilà. Ou un beau gâteau d'anniversaire.
Exactement.
Ou quelque chose
et
comme
en fait,
ça.
On peut tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de limite à part celle qu'on se fixe. Et puis les limites techniques qu'on a chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui me motive. Je trouve que c'est un métier, effectivement, qui permet de s'exprimer avec les mains et sur quelque chose qui sera mangé. Voilà. Donc, c'est un double effet, la pâtisserie. Vous la voyez.
Et vous la mangez.
Et vous la mangez.
Et le troisième effet, c'est vous en redemandez.
Et vous y retournez.
Ah.
Si tout va bien.
En 2 ans, vous avez votre CAP de pâtissier chocolatier glaceur confiseur, pas de souci. Et vous vous dites, tiens, je vais faire une mention complémentaire dessert de restaurant.
C'est ça.
Pour quelle raison valable?
Par manque de confiance aussi, je pense.
Pas attaquer tout de suite la vie professionnelle.
Oui, je m'étais dit, tiens, il faut aller tout de suite trouver un travail en tant qu'ouvrier. Bon, j'avais 18 ans, je me suis dit, bon, allez. Et là, je vois mon patron et je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire après? Et puis lui, il me dit, après, t'as les mentions complémentaires, t'as les BTM, t'as les... Voilà, puis il me dit, mentions complémentaires, dessert de restaurant, ça peut être intéressant. Il faut aller trouver un stage dans un resto. Et puis je lui ai dit, et je peux pas la faire ici. Et en fait, il me dit, si, mais il n'y a pas d'intérêt, on fait pas de dessert. Donc, je dis, dessert à l'assiette. Je dis, mais c'est pas vraiment grave. Donc, du coup, je l'ai faite quand même là-bas. Mais c'était plus une année de réconfort, de manière à se...
L'oiseau prépare à sauter.
À s'envoler, peut-être.
À s'envoler.
Voilà, ouais. C'était reculer pour mieux sauter.
D'ailleurs, presque, il s'envole. Le
on pourrait presque
2000.
Dire ça. Exactement. Hein? Avant.
Avant, à Grenoble, Daniel Hibbert.
Ouais. Je m'envole en 99.
Ouais. De Bourg-en-Bresse à Grenoble.
À Grenoble,
Et Daniel Hibbert, c'est un ancien de chez Dahl.
C'est ça.
Boyau. Et là, vous découvrez une pâtisserie encore différente.
Et là, effectivement, en arrivant à Grenoble, qui est déjà une ville beaucoup plus grosse, de par la taille. Et c'est vrai que je rencontre donc Daniel Hibbert, qui tenait une pâtisserie qui était très sympa, mais surtout avec avec des gâteaux qu'on connaissait moins à Bourg-en-Bresse, quoi.
Ah.
Genre. Mogador, confiture de framboise, chocolat, enfin un biscuit sachet avec une, lui en tout cas le faisait comme ça, avec une mousse au chocolat sur le dessus, et puis on mettait une confiture en framboise pépin sur le dessus, on le terminait framboise pépin. Après, il avait, voilà, et je trouve trouvais que c'était sympa de voir aussi comment ils faisaient ses crèmes citron, comment ils... Ouais, il y avait des différences. Les Florentins, j'ai découvert les Florentins là-bas. Les macarons là-bas. Donc,
ouais,
à Bourg-en-Bresse, on faisait des macarons, mais c'était des macarons...
C'est des macarons.
Ouais, voilà. Mais après, et je trouve que d'arriver là-bas, je me suis dit, tiens, il y a une vraie différence quand même entre Bourg-en-Bresse et Grenoble. Et un jour, en fait, mon cousin qui était installé à Grenoble et qui a gagné le Tolonia.
Oui, grand Auguste Tolonia, voilà, maître du sucre.
Quand même. Est allé monter à Paris à la Coupole où se passait l'événement pour recevoir son prix. Et celui qui l'avait gagné l'année précédente, c'était James Berthier.
Ah ouais.
Ouais. Et James Berthier donc rencontre mon cousin et bon, James étant un abatteur de sucre, quand il voit quelqu'un qui travaille du sucre, je pense qu'il voilà, il y a une espèce de fédération directe. Et du coup, et quand mon cousin rentre, il me dit, qu'est-ce que tu fais après ton contrat chez Ibor, CAP chocolatier. Il me dit, qu'est-ce que tu fais après? Bah, je dis, j'en sais rien, je vais chercher du travail et tout. Mais il me dit, mais monte à Paris. Il me dit, monte à Paris, il y a James Berthier qui rouvre le Meurice. Il me dit, voilà, il va rouvrir en 30 juin 2000. Il me dit, va là-bas, quoi. Envoie ton CV. Donc moi, j'envoie deux CV. J'envoie un CV... je fais tout le tour de d'Annecy aussi, avec un pote, et je dépose des CV dans toutes les pâtisseries. Mais j'ai pas vraiment eu de retour à ce moment-là. Et j'envoie mon CV chez Georges Blanc et mon CV à Paris, donc à James Berthier. Je passe mon entretien avec James Berthier. Il m'embauche. Voilà. Il m'embauche et j'ai attaqué le 30 juin 2000.
Commis. Poste de commis.
Ouais, commis.
30 juin 2000, vous avez 20 ans pile.
J'avais 20 ans pile, le jour de mon anniversaire. Ouais, ah. Ça s'oublie pas un truc pareil. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que Georges Blanc me répond par courrier 15 jours après qu'il m'embauche.
Trop tard.
Et donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois Georges Blanc maintenant dans des manifestations, des représentations, des choses comme ça. Et donc je lui ai raconté une fois qu'il ne m'avait pas embauché tout de suite. Alors maintenant, à chaque fois qu'il me voit, il dit aux gens qui sont autour, j'ai été assez bête pour ne pas l'embaucher celui-là.
Ouais.
Ce qui est très drôle.
Bon, en même temps, vous êtes 6 à l'époque dans la brigade de pâtisserie de James Berthier, chef pâtissier de l'hôtel Meurice.
Et on fait des viennoiseries.
Et au fait, les viennoiseries.
Je le dis parce qu'aujourd'hui, ça paraît complètement dingue à 6 de faire des viennoiseries dans un hôtel. Ouais. Mais en même temps, il n'y avait pas du tout, la même dynamique pâtissière en 2000 dans un hôtel qu'elle naît aujourd'hui, quoi. C'est fou.
Vous ne connaissez pas les chefs.
Alors déjà, et puis je pense que les produits ont complètement évolué, quoi. C'est la folie, quoi. C'est...
Et là, vous y restez 2 ans.
Là, j'y reste 2 ans. 6 mois avec James Berthier, pas très longtemps finalement. Après, je vais l'aider un petit peu à faire son ouverture en extra. Et après, on a eu plusieurs. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs. Parce qu'on a eu, François Bénaud, qui a été après l'exécutif de Robuchon, qui est toujours d'ailleurs l'exécutif chef de Robuchon en pâtisserie, mais qui est resté 6 mois. Et après François Bénaud, on a eu Christophe Taforo.
Oui.
Christophe Taforo, qui est resté encore après mon départ d'ailleurs, mais qui est parti peu de temps après, qui s'est installé à Albertville, qui est toujours installé à Albertville.
Absolument.
Et donc, voyant tous ces changements, moi je me suis dit, bon allez, donc je viens postuler au Ritz. Là, je passe un entretien avec Eddy Benganem, on est en 2002, et Eddy me dit, après l'entretien, pour l'instant qu'il n'avait pas de poste, mais qu'il connaissait quelqu'un qui recrutait, parce qu'à l'époque, il venait de quitter le Georges V pour arriver dans ses fonctions au Ritz. Okay. Et donc, il me dit, va voir au Georges V, je suis sûr qu'il recrute. Donc, j'envoie mon CV au Georges V, et je me fais embaucher en tant que commis, toujours. Voilà. En tant que commis, donc j'attaque là-bas en février ou mars 2002.
Ouais.
Et là, j'y passe 6 ans. 6 ans et demi.
6 ans.
Ouais.
Et dont les 3 dernières années comme demi-chef de parti.
Sous-chef.
Sous-chef et avant demi-chef de parti.
Les 3 dernières années sous-chef.
Vous faites la hiérarchie de la pâtisserie, d'hôtellerie, restauration.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors après, l'avantage de Four Seasons, c'est que c'est un gros groupe. On a eu l'occasion de voyager, de faire des événements un petit peu à l'étranger. Donc c'était une maison qui était... et puis il y avait une dynamique de dingue à cette époque. Hein. Enfin, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est une maison impressionnante.
Une maison. Hein. Ouais.
Et le chef à l'époque s'appelait Arnaud de Faltan quand je suis arrivé,
ouais.
qui était un mec super, qui était le sous-chef de Laurent Jeannin quand il était là-bas. Et il y avait Nicolas Denis qui était ancien sous-chef d'ailleurs du Bristol, qui était arrivé là-bas, qui était un mec aussi très dur, mais un très bon gars. Et après, quand ils sont partis, c'est Fabrice Leclerc qui avait repris, beaucoup plus discret, mais qui a quand même tenu le bateau, si je dis pas de bêtises, 7 ans. Ce qui est, c'est jamais arrivé depuis d'ailleurs.
Ouais, c'est... Non, c'est des vaisseaux qui sont.
C'est des vaisseaux qui sont tellement lourds que.
Que l'équipage.
Voilà. Le commandant en pâtisserie en général, il fait pas 7 ans quoi. Donc, et puis à la sortie de ça, en fait, donc j'étais sous-chef, je ouais. me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. J'avais 27 ans, 28 ans, et je me suis dit, bon, c'est soit je reste sous-chef là, soit je me bouge maintenant, quoi.
Ah.
Et puis là, il y a Michel Troisgros qui cherche son chef pâtissier pour la table du Lancaster où il était en consulting. Donc je vais passer l'entretien, ça se passe bien, il m'envoie à Rouen pour continuer les entretiens, et puis il m'embauche en tant que chef pâtissier pour la table du Lancaster. Donc le restaurant gastronomique, et puis les chambres. Il y avait un tea time, mais c'était vraiment, il y avait trois tartes.
Et là, j'y reste... Un hôtel dans une rue perpendiculaire
ouais,
des Champs-Élysées.
Rue de Berry. Ouais. Mmh. Et là, j'y reste un tout petit peu moins de 2 ans. Mais c'est la première fois où je suis confronté vraiment à la création
oui,
et à l'échange en direct avec un chef de cuisine.
C'est chef.
Ouais.
Les premiers postes.
C'est
chef.
Ça. Ouais. Et là, je rencontre Sylvia Vigneux.
Qui vous accompagne.
Ah, toujours ici aujourd'hui.
Toujours avec vous. Ah.
Et donc là, je reste un an et demi, presque 2 ans là-bas. J'apprends beaucoup auprès du chef Michel, parce que c'est un mec qui a une vraie culture du goût.
Uh-huh.
Et voilà, avec qui j'ai beaucoup évolué, je trouve, sur le goût. Il a une vraie gestion, en tout cas gustative, de l'acidité, de la mer.
Ouais, vous faites des dim sum à l'époque, sucré.
Et ça m'a beaucoup servi pour la suite.
Pour le goût.
Ouais. C'est là où j'ai commencé à travailler les vinaigres, les alcools de fruits notamment, et surtout les vinaigres. Ouais.
Ah.
Et j'en utilise toujours aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup.
Vous y restez 2 ans.
J'y reste 2 ans. Et là, en fait, assez vite quand même, je m'ennuie parce qu'il y a juste un restaurant. Je sortais d'un navire assez gros où on était tout feu, tout flamme. Et là, j'arrive sur un restaurant. C'était presque pas assez, quoi. Donc, à ce moment-là, je croise Claire Hessler qui travaille au Ritz. Claire que je rencontre du coup par le biais d'une amie que j'avais qui était responsable du recrutement au Ritz et qui me présente Claire. Et donc on parle, je m'en rappelle, on était au parc Hayat, je crois, on buvait un verre un soir, et puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire après? Bah, je lui dis, écoute, j'en sais rien, je lui dis, moi j'aimerais bien avoir un truc un peu plus gros, quoi, voilà, parce que je vois que je vais m'ennuyer, quoi.
Ouais.
Et elle me dit, bah écoute, je connais un petit peu le chef du Shangri-La, Philippe Labbé, qui cherche du personnel, qui cherche notamment son chef pâtissier. Bah, je lui dis, écoute, je lui donne mon CV, et puis elle le transmet à Philippe Labbé. Et Philippe Labbé donc me contacte pour un testing. Il a contacté d'ailleurs beaucoup de personnes parce que de mémoire il y en a eu au moins 6 ou 7 qui ont fait des tests au même endroit que moi. Et là il me fait faire tout un concours, avec dessert de restaurant, dessert de banquet. On avait une pièce artistique, chocolat, on avait un petit peu tout. Et là je vais m'entraîner donc chez James Berthier le soir.
À sucre et cacao. Avenue Gambetta,
ouais.
20e.
Et donc le soir, j'y vais après les services, donc forcément la nuit. Et là où James, il est quand même vraiment unique, c'est que le soir, donc je l'appelais quand j'étais devant son labo à 23h, il descendait me donner les clés et il repartait pas en fait, donc il restait. Et ça, c'est unique, quoi. Je sais pas si... Voilà, ça c'est quand même unique. Ouais.
Ce serait votre deuxième maître d'apprentissage, on dirait.
Non, mais c'est un mec. C'est un mec.
Avec lui, vous découvrez la pâtisserie de Palace.
Ouais.
Avec lui, vous vous entraînez pour passer. Parce que le Shangri-La dont vous parlez, c'est l'ouverture d'un hôtel, c'est un événement à l'époque.
Exactement. C'était un gros événement, ouais.
Oui, et l'ouverture d'un établissement de ce type, on ne confie pas les clés de la pâtisserie à n'importe qui.
Non, et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup fait mal sur ce testing parce que je voulais qu'on ait un truc. Voilà, je voulais le poste, quoi. Je voulais le poste et donc on a fait beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup travaillé le gustatif, quoi. Voilà. Et du coup, bah, il m'embauche. Donc du coup, bah, j'apprends que c'est moi qui aurai le poste. Et bah, j'attaque là-bas. C'est toujours en juin, c'est un truc de fou. Hein, mais vraiment, hein. Donc j'attaque en juin 2010.
Le 2 juin même.
Je crois que c'est ça, voilà. Ouais. Et donc j'attaque en juin 2010 et là, j'y passe 5 ans. Ouais.
Alors 5 ans,
5 grosses années.
On vous découvre, les professionnels et surtout ouais. Le grand public, enfin ouais. Les foodistos, je sais pas quoi, foodistas, ouais. Les amateurs.
Ouais, alors c'est surtout
commencez
que...
à vous faire remarquer là quand même. Hein.
Ouais, alors moi c'est surtout 5 ans durs parce que c'était mon premier poste de chef et c'est vrai que c'était dur. Après, ce qui était dur, c'est que j'ai attaqué tout seul, en fait, et que j'ai eu... on a ouvert en décembre, et les premières personnes de mon équipe qui sont rentrées dans la pâtisserie ont attaqué en septembre. Ce qui veut dire que j'ai fait juin, juillet, août, et quasiment septembre tout seul. Pour la sélection du matériel, l'aménagement du labo, la préparation des cartes, les premiers tests, dont certains qui sont encore aujourd'hui en carte, hein, notamment le cheesecake au pamplemousse qui existe toujours. Et du coup, c'est vrai que ça, c'était pas rien quand même.
Ouais. Parce que après, donc vous y restez 5 ans.
J'y reste 5 ans.
Il y a aussi la réouverture du Ritz.
Alors, il y a aussi la réouverture du Ritz.
Peut-être on ne sait pas, on ne se rend pas compte, mais déjà, vous avez listé tout ce que doit faire un chef, entre le matériel, le labo, les hommes, ouais. Les matières, les ouais. Desserts, machin. Quand un établissement ouvre, et là, c'est le Ritz, c'est prestigieux.
Oui, et puis, en plus, au Shangri-La, j'ai eu aussi l'expérience on a tourné des émissions pour Cuisine Plus. Ça, j'en ai tourné 10, donc j'ai pris un pied fou aussi à ça, parce que je devais présenter et réaliser les produits. Donc c'était sorti sur Cuisine Plus, c'était en 2012 ou 2013. Et là, ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, c'était un dessert et deux possibilités. Donc en fait, je devais présenter le produit et je devais faire les produits. Donc ça, c'était c'était assez marrant.
On est en juin 2015.
Donc on est en juin 2015. Là, en juin 2015, alors même avant d'ailleurs, en septembre 2014, Nicolas Salle,
chef de cuisine
donc du K2 à l'époque, à Courchevel, m'avait déjà appelé une année auparavant pour que j'aille prendre la pâtisserie au K2 à Courchevel en chef pâtissier. Je lui avais dit que je voulais pas quitter Paris pour l'instant, que voilà, j'avais envie de continuer un petit peu cette ascension professionnelle. Ah ouais. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit « Écoute, c'est pas toi qui descends, c'est moi qui monte. » Je lui dis « Écoute, soit tu m'en dis pas assez, soit tu m'en dis trop, quoi. » Et il me dit « Voilà, il me dit c'est moi qui vais monter à Paris, je vais prendre le Ritz. » Bon. On était en 2014, c'était bien avant que ce soit annoncé. Et il me dit « Je voudrais que tu sois le chef pâtissier de la réouverture. » Donc forcément, ça se refuse pas.
Voilà. C'est quand même une place de prestige.
C'est une place de prestige, mais surtout, moi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis que je suis à Paris et que je descendais en province et que je disais à mes potes de province, je travaille dans un palace à Paris, les gens me disaient à chaque fois, tu travailles au Ritz ? Non, je travaille au Meurice. Après, les gens, ils me disaient, je travaille dans un palace, tu travailles au Ritz ? Non, je travaille au Georges V. Ah. Après, les gens ils me disaient, je travaille au Shangri-La. Lancaster, j'en parle même pas. Ouais. Et là, je travaille au Ritz.
Le Poliati, c'était au Ritz.
Voilà. Donc en fait, parce que quoi de plus beau que le Ritz ? Pour moi, il n'y a pas plus beau. En fait. Donc déjà, de par le nom, de par le mythe, de par la situation géographique de l'hôtel, son positionnement international, pour moi, il n'y a pas plus beau. Quoi. Et donc du coup, voilà, je me retrouve au Ritz. Donc là, j'attaque en
juin 2015.
Tu vois, c'est toujours des mois de juin. Tu vois. Ouais. Donc j'attaque en juin 2015 et ça ouvre en juin 2016.
2016.
Ouais, ça ouvre en juin 2016.
D'accord.
Donc là, j'ai eu une année pour préparer l'ouverture, ce qui n'était pas trop. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de vivre de mes erreurs. Donc déjà, j'ai demandé une grosse partie de mon équipe tout de suite.
Ah, ne pas être tout seul 4 mois.
Non.
Il y a combien de chambres, Ruth?
142. Ouais. 142 chambres.
Il y a 7 points distincts.
On a la table de l'Espadon, le jardin de l'Espadon, le bar Vendôme, le salon Proust, les 140 chambres et aujourd'hui le comptoir. Donc, et surtout 7 salons de réception.
Pour les banquets, ouais, réception.
Ce qui est une grosse part du gâteau. Ouais.
Voilà l'amiral Ritz.
Ouais. C'est ça. Ouais.
Et alors vous avez Sylvie Vigneux qui vous accompagne depuis 2000.
Donc là j'ai Sylvia Vigneux qui m'accompagne. J'ai aussi
Julien
Loubert, Adeline Robineau, Clément Tilly. J'ai aussi Mathieu Carlin qui est maintenant au Crillon.
Et là vous êtes paré.
Et là on est paré quoi. Voilà. Donc ça c'est les premiers à intégrer bien sûr. Et puis, ça nous a permis, ça m'a vraiment permis de réfléchir et de rien oublier, quoi. Voilà. De vraiment réfléchir, en fait, à une pâtisserie, je dirais, plus profonde dans la réflexion et pas seulement faire un gâteau, en fait.
Ouais. Voilà.
Mais aussi créer quelque chose.
On est au Ritz, Marcel Proust vient prendre son thé. Ouais. Donc, vous faites une madeleine.
Moi, je voulais une cohérence, en fait. C'est important pour moi de me mettre dans le lieu et de m'imprégner du lieu dans lequel je travaille. Et quand j'étais au Shangri-La, je faisais des dim sum. Bon, des tartos au citron, d'ailleurs, qui sont toujours aujourd'hui ici aussi. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, on me dit, voilà, on m'énumère les points de vente et puis on me dit, voilà, il y aura un lieu qui s'appelle Salon Proust. Bah, je dis Salon Proust, on ne peut pas se permettre de faire un thé à l'anglaise dans un lieu qui porte le nom de Salon Proust. Quoi. C'est pas possible. Quoi. On ne peut pas servir des scones, des finger sandwich là-dedans. Quoi. Et donc, je propose un thé à la française. Je faisais pas mal de biscuits au Shangri-La déjà. Et donc, j'avais envie d'étoffer un petit peu cette offre et de faire une offre vraiment axée sur la biscuiterie qui finalement... Bah, c'est très français et puis c'est très perdu, si je peux résumer. Quoi. En apprentissage, on avait la biscuiterie, je m'en rappelle, on les achetait au 100 grammes, on remplissait les barquettes, voilà, les cigarettes russes, les macarons, les doigts de fée, les spritz, toutes ces choses-là. Ouais. Et tout ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Quoi. Ouais. Et donc j'ai fait une offre de thé qu'avec de la biscuiterie. Donc je pense que c'est une offre qui est toujours unique aujourd'hui à Paris. Et ce qui est unique, c'est qu'on a deux thés en fait. On a un thé à l'anglaise au bar Vendôme, où vous avez les scones, les finger sandwich et le choix d'une pâtisserie. Et puis vous avez l'expérience au Salon Proust, où là on est sur un thé à la française et vous avez 15 ou 16 biscuits différents qui accompagnent votre thé. Et l'idée, c'est... Donc je suis allé jusqu'à créer la vaisselle, l'argenterie, les stands en porcelaine. Non, les stands en porcelaine, pas d'argenterie justement. Parce que justement l'argenterie est anglaise et pas française, donc je voulais rester sur la porcelaine pour rester vraiment le plus possible dans le thé à la française. Donc je voulais des théières forcément un petit peu esprit Alice au pays des merveilles, donc les boutons des théières sont en forme de madeleine, les dessins sur les assiettes c'est des madeleines qui cerclent l'assiette. J'ai vraiment essayé de créer un endroit relativement complet, de manière à raconter une histoire qui puisse se comprendre même si on la raconte pas en fait. C'est ça moi qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que finalement les histoires c'est bien, mais s'il faut la raconter pour la comprendre, déjà je trouve que c'est tricher.
Comme de regarder
quoi.
Un tableau et il faut les explications, voilà. Pour avoir une émotion.
Exactement. Et je pense qu'un gâteau c'est pareil. Un gâteau ça demande pas à ce qu'on le raconte pour être compris. Et bien je pense que si on crée quelque chose, une expérience, elle a pas besoin d'être racontée non plus pour être comprise. Et donc au Salon Proust, la première idée c'était de faire cette petite madeleine dans laquelle on allait verser un petit peu de lait imbibé au citron. La madeleine se gorge de ce lait, en fait on mange cette madeleine en une cuillère et ça c'est les prémices de l'expérience. Et déjà ça vous emmène un petit peu dans l'histoire de la madeleine. Et forcément il y avait la madeleine classique. Et puis après je me suis dit comment je peux emmener la madeleine au bar Vendôme, et c'est là qu'est né l'entremets madeleine en trompe-l'œil. Et ça a été le premier gâteau en trompe-l'œil parce que l'idée c'était justement de ramener un petit peu de l'histoire du Salon Proust au bar Vendôme. Voilà en fait l'idée quoi. Et puis après il y en a eu d'autres mais
Il y a eu la barquette aussi.
Il y a eu la barquette, la part de cake, il y a eu le cookie, il y a eu j'en oublie des fois parce que c'est vrai que il y a eu le riz de soleil, on a fait quoi en trompe-l'œil, je sais même plus. On a fait d'autres.
Oui. N'empêche que juin 2016, le Ritz s'ouvre. Automne 2017, vous êtes élu meilleur pâtissier de l'année.
Ouais.
Pendant que Nicolas Salles, lui, est meilleur cuisinier de l'année par le magazine Le Chef. Et en 2019, vous êtes meilleur pâtissier de restaurant au monde.
Ouais, par les grandes tables du monde. Alors ça c'est moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir forcément parce que bah déjà c'est pas quelque chose que j'allais chercher et puis c'est vraiment quelque chose qui est arrivé sans vraiment que je m'y attende quoi parce que je le cherchais pas et puis je pensais pas que il y a tellement de gens pros autour que voilà, je me suis dit il y en a bien d'autres mais j'étais hyper content quoi forcément, très fier, très
parce
content.
Ce que vous dites à l'époque c'est des barres énergisantes pour notre métier marathon.
Ouais, c'est oui, c'est bah c'est un c'est effectivement c'est
bah c'est de, que les pros vous disent on vous aime on bah a
c'est du kérosène quoi voilà ah. C'est, ah, c'est ouais. Ça vous permet d'embrayer la seconde et puis de en fait on est tellement dans un métier enfin métier en tout cas moi je suis tellement dans une dynamique de doute que quand on a la chance d'avoir une récompense comme celle-ci. Bon, bah, ça temporise un peu vos doutes et ça vous permet de redonner un coup d'accélérateur, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Voilà.
Et après, ce qui vous rend encore plus populaire, c'est février 2019, le tournage Netflix, oui. Où là, le chef est dans son camion et va faire son camion Ritz et va faire ses desserts en Californie.
Ouais.
En Californie, hein.
Californie.
Ouais. C'est 5-6 épisodes qui permettent de bien découvrir qui vous êtes parce que. On voit tout, c'est-à-dire que tout ce qui est bien, mais on voit aussi que quand vos assistants oublient des fruits au marché, ouais. On voit au fond de l'œil que vous êtes un tueur finalement.
Non.
En tout cas, un mec exigeant.
Ouais, alors après, non, moi ce que je voulais.
Voilà, c'était quoi cette aventure d'aller faire.
En fait, cette aventure, moi ce qui m'a fait accepter cette aventure, déjà, c'est la rencontre avec Eric Nebo, parce que cette aventure, justement, est née de cette rencontre.
Absolument.
C'est Eric Nebo, c'est qui? C'est un client, en quelques mots, hein, qui est venu à l'hôtel, qui a pris les desserts qui adore la pâtisserie, donc qui regarde ça des États-Unis, parce qu'à l'époque, il habitait à Los Angeles. Et puis, il arrive à l'hôtel, il goûte les desserts, là, il les trouve pas mal et il prend ceux du bar Vendôme, il demande un petit peu de sélection du Proust et puis après il m'envoie un message sur Instagram. Il me dit François, voilà, je voulais vous dire, j'ai adoré vos desserts, c'est aussi beau que bon, ce qui est très rare aujourd'hui. Et je voulais juste vous le dire. Voilà. Bon, moi je réponds merci, merci pour le compliment, ça fait plaisir quoi. Et donc là il se présente, il me dit voilà, je m'appelle Eric Nebo, j'habite à Los Angeles, j'adore la pâtisserie, je suis dans le placement de produits, rien à voir avec la pâtisserie. Et il me dit, il faut absolument qu'on fasse un truc, tu veux pas venir, est-ce que vous voulez venir à Los Angeles faire un pop-up dans un hôtel? Bon, je lui dis, écoutez, à l'époque on se tutoyait pas, hein, donc je lui dis, je suis affilié avec la maison, je lui dis, je peux pas aller dans un hôtel faire un tea time à Beverly Hills, quoi, c'est pas possible. Même si ça m'intéressait. Et je pense qu'il y a des choix à faire aussi aujourd'hui. On peut pas être partout. Et donc, et à la sortie de ça, donc ça c'était en mai 2018.
Ouais.
Et sortie de ça, quelques temps après, au fur et à mesure, on commence à s'appeler un peu plus. Et puis il me dit, écoute, je peux te faire rentrer si tu veux pour faire les desserts de la remise des Oscars de Bradley Cooper. Donc ça c'était le 16 novembre 2018.
C'était pas en juin.
Non. Alors, c'était pas les Oscars, c'était les Awards ou je sais pas quoi,
ouais, sans doute. De télé.
Ouais. Et là, manque de peau ou plein pot, j'ai mon fils qui était prévu pour le 14 novembre. Donc je lui dis, je vais pas laisser ma femme avec mon fils qui est pas encore né pour aller faire le zozo là. Et donc après, on continue d'échanger et quelques semaines après, il me dit, écoute, on va faire un food truck. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet échange, c'est que, au vu de la dégustation qu'il avait faite et de ce qu'il avait trouvé dans l'assiette, il avait envie de faire un truc avec moi, mais il savait pas quoi. Et au vu des différents échanges qu'il y a eu avant cette proposition de food truck, c'est vraiment un projet qui est né et qui a été réfléchi à deux en fait. Et c'est pas quelque chose qui m'a proposé instantanément comme ça, juste après la dégustation quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, je me suis dit c'est que vraiment il avait envie de faire un truc avec moi quoi. Donc
en tout cas, tout
et de me mettre un peu en sortir de ma zone de confort comme il dit.
Ouais, et en même temps, tous ceux qui l'ont vu disent c'est vous. Oui, parce qu'en 6 épisodes, c'est on ne peut pas tricher non plus.
Non, on peut pas. Ah non, on peut pas. Non. Puis d'ailleurs, quand on a vu le résultat, moi, la première question que j'ai posée à ma femme, c'est qu'est-ce que t'en as pensé? Elle me dit, c'est toi. J'ai dit, c'est bon. Voilà. Parce que l'idée, c'était justement d'être soi-même, quoi. C'était pas de se transformer ou de jouer un rôle ou.
C'était l'idée pour vous.
Voilà. Bah, c'était clairement l'idée pour moi et c'est clairement ce que je lui avais dit, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas. Voilà, c'était de rester soi-même. Donc, je voulais être moi-même. Je pense que c'est.
Pour moi, c'était plus facile, en plus, comme rôle.
C'est ça.
De rester soi-même.
Exactement. Et sur la durée, je pense que ce sera plus évident.
Donc, du coup, c'est quoi vos pâtisseries préférées à vous?
Bah
je vais vous faire plaisir, puisque j'apporte sur le plateau.
Le chousse de chez le nôtre.
Alors, le chousse sur un sablé, mousse fromage blanc, framboise,
ah, c'est bon
fouettée.
Ça, c'est bon ça. Ah,
c'est bon, c'est bon. Créé pour les Jeux Olympiques de Grenoble, c'est à Grenoble que vous l'avez découvert?
Même pas.
Ah.
Ici. Bah, à Paris.
Pourquoi c'est bon? Pourquoi ça vous fait cet effet-là?
Ah, parce que c'est pourquoi vaporeux.
Ah, voilà.
Ouais, c'est un nuage ce gâteau. C'est un nuage, on a la crème, moi j'adore la crème. Et c'est pas des goûts qui sont trop compliqués, c'est des choses qui sont hyper efficaces. Et puis voilà, c'est d'une légèreté. Moi j'adore la légèreté dans les desserts. Donc c'est.
Ah. Ouais. Et les crèmes détresse.
Oui, alors et la crème détresse, oui, c'est. Oui. C'est sûr. Ouais.
C'est sûr. D'autres pâtisseries?
Après, il y a les tartes aux fruits, cake marbré, forcément.
Mais genre, c'est votre anniversaire le 30 juin, c'est quoi comme gâteau que vous voulez? Vous avez le droit de demander.
Oh, bah, le chousse, hein.
Ah, voilà.
Ah, ouais, ouais.
Ah, super.
Ah, bah, c'est. J'adore ce gâteau.
Et quels sont vos pâtissiers professionnels préférés?
Alors là, il y en a toute une liste.
Oui, c'est vrai. Alors, je vais vous aider. Vous me dites Kevin Lacotte.
Ouais, alors moi, ce que j'aime chez ce garçon, on a travaillé ensemble au Georges V. Il était apprenti quand moi, j'étais sous-chef, si je ne me trompe pas. Et je trouve qu'il fait un super travail tout en étant indépendant.
Il a sa boutique.
Voilà, et je trouve que ça, c'est quand même pas rien. Mais il y a aussi forcément Gilles Marchal, il y a Christophe Felder, il y avait Laurent Jadin qui est parti forcément beaucoup trop tôt. Il y a Xavier Brignon, qui est aussi super. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Mais il est dans quelle ville?
Je ne sais plus où il est, lui. Il est,
au sud ou à Lyon?
Ah. C'est une bonne question.
Il y a Quentin Bailly, lui, on sait, c'est sûr, c'est à Lille.
C'est ça. Non, Xavier Brignon, ce n'est pas Lille. Hein.
Non, c'est non, sûr que c'est...
Non, je vois pour moi, c'est au-dessus de Lyon, non? Il me semble, j'ai un doute.
Et il y a Christophe Michalak qui paraît aussi dans vos...
Oui, parce que Christophe Michalak, je trouve qu'aujourd'hui, il a permis aussi de mettre le ton sur la pâtisserie. Et je pense qu'on ne peut pas parler pâtisserie sans parler Christophe Michalak. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a apporté aussi la lumière sur le métier.
Avec le club des sucrés.
Avec le club des sucrés, qui d'ailleurs...
Qui a été champion du monde quand il était chef.
Oui, qui a été champion du monde, qui a fait des choses quand même magnifiques. C'est le premier à avoir fait des... Enfin, le premier, pas le premier, mais en tout cas, c'est celui qui a médiatisé davantage ses collections de bûches, notamment. Et puis c'est quelqu'un... c'était un nid à talent, quoi. Quand on regarde un petit peu tous ceux qui sont passés chez lui, on peut se dire que quand même, il y a une raison.
Il a fait un champion du monde, Jérôme d'Oliveira.
Il y a quand même une raison, quoi. Et ça, c'est pas rien, quoi. Après, forcément, Pierre Hermé, je pense que...
Il est surnommé le boss, c'est vraiment ça?
Pour moi, c'est le boss, dans le sens où c'est quelqu'un qui se réinvente constamment. Et quand on sait la difficulté de se réinventer, on peut qu'avoir un coup de chapeau pour ce monsieur, parce que c'est quand même pas évident de se remettre en question, de ramener des nouvelles idées, et ça, moi, je trouve que c'est chaud, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est réfléchir? Ça fait, parce que la durée, c'était en quelle année?
93 ou 17, voilà. Les
deux. Le mec, ça fait quand même depuis 93. Moi, je pense que c'était 93. À aujourd'hui, qu'il est quand même au top, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est quand même pas rien, quoi.
Alors, vous marquez l'histoire de la pâtisserie aussi? Ben, si.
Ouais. Parce que votre l'avenir nous le dira, Franck.
Votre dernière trouvaille technique, je suis désolé, on l'avait vue nulle part.
Ouais.
De quoi s'agit-il?
La viennoiserie.
Oui, les viennoiseries longilignes.
les viennoiseries longilignes, les boissons pâtissières, ouais, et le moule pour faire des sandwichs ou des millefeuilles à manger à la main, effectivement.
Alors oui, je reviens sur les viennoiseries en longueur, longilignes, ouais, et carrées, là.
Ouais.
C'est quoi ce délire ?
En fait, quand j'ai beaucoup réfléchi sur ce projet, et je me suis dit comment je peux rendre plus pratique la dégustation d'un croissant. Je trouve qu'un croissant et un pain au chocolat, c'est galère à manger, quoi qu'on en dise.
On en met partout.
Au risque de choquer un petit peu les amoureux du croissant français, je trouve que c'est galère à manger. Et aujourd'hui, voilà, moi-même qui en mange un tous les matins, souvent dans mon bureau, on s'en fout partout. Voilà. Donc, je me suis dit, comment je peux le rendre plus pratique ? Moi, ce que j'aime dans le croissant, c'est les deux pointes. Il y en a que deux. Donc, du coup, je me suis dit, j'aimerais la pointe en longueur. J'aimerais pouvoir le manger comme ça, sans ouvrir la bouche comme un âne, et sans m'en mettre partout.
Ouais.
Donc, bah, je l'ai fait en finger, en fait, tout simplement. Je l'ai fait en format longiligne.
Vous faites un moule ?
Alors, le moule, il existe.
Ah, il existe,
ouais,
en plus.
Le moule, il existe. C'est juste que je l'ai détourné son utilisation. D'accord. Pour ça. Et après, je suis parti du croissant, et après c'était tellement évident pour le pain au chocolat que voilà, le chocolat, l'avantage c'est qu'on a le chocolat de la première à la dernière bouchée, quoi. C'était ça l'intérêt. Je dirais le plaisir jusqu'au bout.
Alors la boisson pâtissière, bon, il y a une logique là, parce que comme le Paris, le comptoir Paris est ouvert,
ouais,
et que c'est du lundi au samedi de 8h à 19h, vous avez tous les moments de la journée.
Oui.
Et on peut faire du click and collect ou on peut consommer sur place.
Oui.
Donc, mais là, l'idée de la boisson pâtissière, c'est vous reprenez un entremets avec ses marqueurs et on le boit.
En fait, Lorsque j'ai fait mon périple aux États-Unis, je me suis rendu compte de cette dynamique rue qui m'a beaucoup plu. Et quand j'ai réfléchi à ce projet, je me suis dit, la viennoiserie en longueur, les sandwichs réfléchis avec moins de pain, plus de garniture, le millefeuille à manger en marchant, je me suis dit, la boisson à boire en marchant, parce qu'on me dit, on est quand même à Paris, on est en France, la capitale de la gourmandise, de la pâtisserie, on se balade, on flâne dans Paris, mais vous avez déjà mangé un gâteau en marchant, c'est un carnage, c'est impossible. Et donc je me suis dit, ben, on va le boire. Et ce que je trouvais hyper drôle, c'était de mettre le Ritz en gobelet. Je trouvais que c'était hyper... Ouais, je trouvais que ça avait un petit côté un peu provocateur, et ça m'a beaucoup amusé. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que la maison a tout de suite adhéré, quoi. Parce qu'elle voulait s'ouvrir sur Paris, et voilà, elle aurait pu dire non, c'est trop dégradant pour nous. Non, au contraire, elle a dit ouais, go, on y va, quoi. Et ça, c'est magique, une marque comme le Ritz qui s'autorise de se mettre en gobelet. Parce que finalement, c'est pas le contenant qui va faire la qualité. C'est ce qu'on met dedans. Donc, qu'on le mette dans un gobelet, qu'on le mange à la main, ou que ce soit dans une porcelaine avec des couverts en argent, d'ailleurs, si on peut très bien mettre un gros tas de n'importe quoi dans une porcelaine avec des couverts en argent. Voilà.
Ah. Et... Ça, c'était vos trois dernières trouvailles techniques. La prochaine, c'est quoi ?
La prochaine ?
Ouais. Vous en avez un sous la main, au moins ?
Non.
Sous la spatule ?
Non.
Au bout du fouet ?
Non plus.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah.
C'est le trou noir. Non, il y a toujours des brides, il y a toujours des morceaux
qui reviennent,
il y a toujours des choses en cours. Là, j'avoue qu'on sait pas spécialement, je suis non. Pas spécialement carnet.
Pas de notes, pas de trucs, pas de...
Non, je teste, j'essaye beaucoup.
Au goût.
Ouais,
je convainc par le goût, après je chercherai la forme.
Non, ça dépend. Des fois, c'est même la forme qui m'emmène sur le goût. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Alors, notamment quand on est sur la bûche, voilà, c'est la forme qui va m'emmener. Quand on est sur un œuf de Pâques, bah forcément, c'est la forme qui m'emmène. Sur un gâteau, bah, si j'en ai un vraiment en particulier, c'est la forme qui va m'emmener. Mais après, sur un dessert à l'assiette, ça peut être le fruit, ça peut être... Il n'y a pas de règle, je dirais. L'important, ce qui me motive énormément, moi, aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie diversité de produits, d'avoir aucun produit qui se ressemble, et puis d'avoir aucun produit qui ressemble au voisin. Ça, j'attache énormément d'importance pour avoir une identité très forte, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une belle dynamique pâtissière. Mmh. J'ai une chance énorme d'être dans une maison comme celle-ci, et j'ai voilà, c'est pas pour faire le citron de Cédric ou le tourbillon de Yann, quoi. C'est pas l'idée, quoi.
Et côté technique, c'est quoi votre biscuit préféré alors ?
Le biscuit préféré, pour moi, ce serait le biscuit de Savoie. En fait, j'aime bien les gâteaux légers, j'aime bien les gâteaux vaporeux, j'aime bien les gâteaux volumineux. Et je trouve que le biscuit de Savoie, c'est un biscuit qui nous permet d'avoir tout ça. Donc, j'ai même d'anciens gars qui me disaient « Michel, vous en avez pas marre avec le biscuit de Savoie ?» Mais non, j'en ai pas marre, en fait, parce que on peut le travailler de différentes façons, on peut lui apporter différents goûts, l'important, c'est le goût que ça va donner, c'est l'ensemble, c'est le gustatif. Et non, j'en ai pas marre, je dirais que c'est une de mes signatures.
Voilà. Et la crème pâtissière en crème préférée aussi ?
Ouais, la crème pâtissière, ouais. Ouais.
Parce que c'est la base de tout ?
Parce que la crème pâtissière, c'est la base de tout, la meringue, c'est la base de tout. Et je dirais qu'il y a deux produits que j'adore travailler, c'est la crème pâtissière, la meringue, allez, on peut même en mettre trois, et la crème fouettée. Voilà. Parce que je trouve que c'est les trois ingrédients indispensables à la pâtisserie française. Et d'ailleurs, j'ai fait un gâteau qui rassemble les trois. C'est une meringue à la vanille où je fais une meringue soufflée qu'on vide, à l'intérieur de laquelle on met une crème pâtissière et je termine avec une crème fouettée et un caviar de vanille. Et en fait, c'est les trois, pour moi, c'est les trois bases. Et c'est un nuage, ce dessert.
Côté ganache.
Côté ganache, moi j'aime bien les ganaches un petit peu, les ganaches coulées dans les tartes, par ouais. exemple pour les tartes au chocolat, donc qui sont plus des ganaches un petit peu montées au beurre, par exemple.
Ouais. En chocolat préféré, je sais que vous êtes fidèle à une marque.
Chocolat, c'est Chocolaterie de l'Opéra et c'est Carupano, Venezuela. Et là, je suis en train d'en développer un, avec justement la Chocolaterie de l'Opéra, qui sera que pour nous, et qui sera plus du Venezuela.
Voilà, qui sera que pour vous.
Qui sera que pour nous, et qui sera sur une autre origine.
Ouais. Praliné, vous m'avez dit gruyère de cacao. Mais...
Ouais, alors j'aime bien... Parce qu'en fait, le gruyère de cacao, c'est une belle amertume. Et en gros, quand on essaye d'équilibrer des desserts, on essaye de trouver qu'est-ce qui peut nous apporter, qu'est-ce qui peut casser un petit peu ce côté linéaire du sucre et écœurant, quoi. Donc le praliné, le gruyère de cacao, je trouve que c'est pas mal pour ça. Mais il y a aussi, ça peut être aussi amené par le côté très ambré de la vanille, par exemple. Ça dépend comment on l'infuse. Ça peut être amené par forcément les agrumes. Ça peut être amené par un vinaigre. Ça peut être amené. Mais toutes ces choses qui peuvent nous casser un petit peu le miel de châtaignier.
Ça, c'est dans vos inserts. Hein.
Ouais. Ouais.
C'est obligatoire dans votre création.
Alors dans le.
Pourquoi il y a ça ?
Ben, en fait, moi, j'adore le miel. Mais le miel, c'est un produit qui sucre, forcément. Donc, d'ailleurs, c'est un pouvoir sucrant, si je dis pas de bêtises, de 150%, je crois. Et aujourd'hui, donc c'est 50% plus sucrant que le sucre. Et quand vous faites un produit au miel, bah, vous mettez du miel pour qu'il se sente. Donc forcément, je dirais que c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Donc l'idée, c'était de travailler un miel de caractère, le miel de châtaignier, voilà, qui est une belle amertume. Et avant, je travaillais le miel de bruyère quand j'étais au Shangri-La, parce que j'ai vraiment commencé à travailler le miel au Shangri-La dans les années 2012, où j'ai fait ce dessert au miel avec cette tuile en gaufrette. Avec à l'intérieur, je mettais une glace au miel de bruyère avec des figues confites et des noix caramélisées sur un biscuit de Savoie, déjà, avec une mayonnaise au miel. Et ça, c'était mon premier dessert au miel, sur un moule que j'ai créé aussi.
Et le miel de châtaignier, on le retrouve dans votre entremets madeleine maintenant.
Et le miel de châtaignier, alors je suis passé de la bruyère au châtaignier, et effectivement, on le retrouve dans la madeleine. Et on le retrouve dans un insert de mini-madeleine, on le retrouve dans une boisson au miel. Donc ouais, j'ai une affection pour le miel. Ouais.
Alors vous faites des décors, soit c'est des décors, c'est le R de Ritz, ou soit c'est des fils en chocolat de l'entremécage, c'est ça ?
Ouais, alors,
inventé là, c'est des fils qui remontent tout
ça.
Autour.
Ouais. Ça, c'est une technique que j'avais trouvée il y a quelques années maintenant, pareil, au Shangri-La. Et effectivement, l'idée, c'était de rayer. Et au début, quand j'avais eu cette idée, on mettait les fils un par un. C'est pas possible. Et après, on a trouvé cette astuce pour mettre tout autour. Mais, et d'ailleurs, c'est une astuce que j'ai vue reprise aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah. Donc, ça fait plaisir, quoi.
Il y a des techniques qui vous épatent ?
Il y a des techniques qui m'épatent.
Travail du sucre, peut-être ?
Ouais, le travail du sucre, ouais. Moi, je suis pas un, voilà, je sais faire des roses en sucre, mais je suis pas quelqu'un qui va vous faire une pièce de folie.
Ah non, c'est pas votre truc.
Non, moi, je vais faire des roses, mais c'est tout. Ouais.
Oh,
ouais.
C'est déjà beaucoup. Ouais.
Mais après, je pense que ce qui est épatant dans le sucre, c'est que souvent les gens qui travaillent le sucre, il y a une espèce de passion dévorante qui les anime, quoi. Voilà. C'est,
D'ailleurs, on les appelle plus les sucriers, on les appelle les bertiers.
Ouais, alors je sais pas comment on les appelle, mais c'est vrai que voilà, les gens, voilà, on est passionnés du sucre, c'est impressionnant. Ouais.
La technique qui vous est indispensable au quotidien?
Bah, je dirais les blancs en neige. La cuisson vapeur pour mes blancs en neige. Et puis, ça, c'est un truc que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et c'est un truc qui est hyper important pour moi. Quoi. Ouais.
Le flocage.
Ah, le flocage sur les madeleines même, aussi, avec le côté où on essaie de recréer un petit peu la coloration de la madeleine. Ce qui marche bien, hein, parce qu'il y a une cliente connue qui s'appelle Céline Dion, qui venait faire un tournage à l'hôtel, et donc j'étais censé, pendant son clip, lui amener une madeleine. Donc je lui amène une madeleine, et donc elle a cru que c'était une vraie, donc elle a pris la main dedans, puis elle a écrasé sa main dans la madeleine. Donc ça, c'était marrant. Puis après, elle m'a collé le doigt dans la bouche. Ça restera entre nous.
On va peut-être s'arrêter là, les enfants nous écoutent, parmi lesquels sûrement les vôtres. Et oui. Cette technique qui vous inspire le plus d'indulgence, vraiment ça passe parce que, je dis pas que c'est mignon, mais parce que bon, quand même, palace, excellence et tout, mais où ça peut passer, vous n'êtes pas en colère. Ah, il n'y en a pas.
C'est dur, il y en a forcément. C'est plus que...
Alors on va peut-être mieux comprendre si je vous demande la faute technique. Vraiment impardonnable, par contre.
Ah bah c'est la cuisson de la crème pâtissière.
Ah oui.
Ouais, ça c'est chiant.
On
ça,
rate
c'est...
la crème pâtissière, ouais, ça, on c'est est rayé.
Non, mais ça c'est chiant, parce qu'en fait, tu te retrouves avec des grains dans la crème pâtissière, et après ils te suivent partout, quoi. Et comme après on la détend dans pas mal de produits, dans des crèmes, bah les grains ils vous suivent partout, et puis après ils passent des heures à les tamiser, c'est un carnage.
Ah, et la qualité professionnelle que vous préférez?
Ben, je pense que aujourd'hui, je dirais que la qualité professionnelle, c'est presque plus une qualité humaine, en fait. Il faut que les gens soient capables de travailler en équipe et puis comprennent qu'aujourd'hui, chaque personne qui est dans le labo a une importance, en fait, et apporte quelque chose. Et donc, en gros, il faut que la plus grosse qualité, ce soit ben, déjà de l'humilité, je dirais, et puis que chacun arrive à comprendre que eh ben, que le mec qui est à côté de lui, même si peut-être il sait moins bien faire quelque chose que l'autre est en train de faire, eh ben, il a une valeur ajoutée sur autre chose. Et on est un travail en équipe, donc on se complète. C'est une équipe de foot. Alors moi, je suis pas trop foot, mais c'est une équipe de foot quand même. Donc vous avez des gens, des buteurs, vous avez des goals, vous avez des avant-centres, vous avez tout. Donc ben, en pâtisserie, dans l'équipe, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont être pro au décor, il y a des gens qui vont être d'une minutie folle, il y a des gens qui vont envoyer du lourd en production, il y a des gens qui vont penser à ce à quoi les autres ne pensent pas. Et aujourd'hui, c'est d'avoir tout ça dans une équipe qui fait que vous avez la bonne équipe.
Ça, c'est le rôle du chef. Le coach, manager,
ouais,
et tout ça.
C'est...
qui fluidifie tout ça.
Mais le rôle du chef, je dirais qu'il est même... Il est plus vous avez des équipes importantes, plus il est diversifié, je pense, parce que il est de faire en sorte que bah déjà, ces équipes soient fières de travailler dans la maison par rapport aux produits qu'il imagine, par rapport aux idées qu'il met à plat, par rapport aux moyens qu'il arrive à obtenir pour qu'ils puissent faire leur boulot tous les jours. Je dirais que c'est ça aussi le boulot du chef, quoi. Et faire en sorte que, dans une dynamique, encore une fois, très forte qu'est la pâtisserie aujourd'hui, mmh. Eh ben, il faut arriver à faire la différence avec eh ben, les autres équipes. Ouais. Pour faire en sorte que bah, ils soient fiers de travailler dans celle-ci et qu'ils cherchent pas à aller travailler dans l'autre, quoi.
Ouais. Voilà.
Donc je dis souvent qu'on travaille pratiquement en premier pour nos clients, bah, pour nos équipes, pour les nourrir d'abord, ouais. Et après pour nourrir nos clients. Parce que je pense que si on nourrit nos équipes comme il faut, ils nourriront nos clients comme il faut.
Ah, tout le monde sera heureux jusqu'au client.
Ah, c'est ça.
J'ai appris à aimer progressivement ce métier et il m'a appris à l'aimer. C'est un peu le conseil que vous donnez aux gens, d'être juste persévérant et patient.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas... Enfin, s'il y en a qui sont tombés amoureux du métier tout de suite, au premier jour, en coup de foudre, tant mieux. Moi, j'ai adoré ce métier. Aujourd'hui, je pense qu'on voilà, on a trouvé un équilibre. J'espère en tout cas qu'il m'aime autant que je l'aime. Quoi, ouais. Mais ouais, c'est dans la persévérance qu'on arrive au plus beau projet. Quoi. C'est pas en un an. Mais dans la vie privée, c'est la même chose. C'est pas la première rencontre que vous ferez des enfants, c'est pas la première rencontre que vous vivrez les plus belles expériences, en tout cas je pense. Et bah, avec le métier c'est pareil, je pense que c'est dans l'adversité aussi qu'on arrivera au plus beau résultat, quoi.
Dans la principale qualité, quand je vous avais demandé, vous m'avez dit je n'abandonne jamais. Et ce qui ouais. est aussi votre principal défaut.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment jusqu'au bout.
Ouais.
Ah ouais, rien lâcher.
Non.
Ça, par contre, c'est le super conseil aux jeunes.
Ah oui. Mais c'est aussi un défaut, parce qu'en fait, bah on s'accroche. Ah, donc,
jusque dans l'erreur.
Ouais, même si on est dans l'erreur. Ouais, des fois, ça peut être un... Oui, voilà.
Ouais.
Oui.
Mais voilà.
Voilà. Mais c'est pour ça que je pense que c'est aussi bien un défaut qu'une qualité, quoi.
Et aux plus jeunes, vous conseillez quoi, alors ? Qui ont envie de faire ce métier ? Ou qui sont déjà dans la première année.
Ouais, moi je leur conseille de s'accrocher, de bien choisir les entreprises dans lesquelles ils vont aller travailler, de bien choisir les gens auprès desquels ils vont s'investir. Et de privilégier peut-être au départ vraiment la petite structure. Ça, je le dis souvent, mais voilà, je pense que dans la petite structure, il travaillera en direct avec son chef tout le temps. Il aura des tâches variées tout le temps. S'il va trop tôt dans une grosse structure, déjà ça va être biaisé parce que il y aura du matériel et des moyens qu'on n'a pas dans la vraie vie. Mmh. Et puis il aura cet instrument de torture qu'on appelle la pointeuse aujourd'hui. Donc je dirais que voilà, je pense que si vraiment il veut avancer et il veut connaître véritablement ce métier, il faut qu'il aille dans une petite structure au début, quoi. Voilà. Ouais. Une structure où ils sont 3-4, c'est très bien, quoi.
Il vous reste du temps pour les loisirs, cher ?
Pas trop.
Une journée, ça commence à quelle heure pour vous ?
Ben, en ce moment, c'est plus 5h30, 6h. Mais en temps normal, j'arrive à 8h30 et je pars quand c'est fini. Donc ça peut être 22, ça peut être 23, ça peut être 21. Mais c'est rarement avant 21.
D'accord. Ouais. Donc il reste quand même du temps après 21 pour s'occuper de quelque chose ?
Non. Non,
de
non.
Quelqu'un, je suis sûr que vous occupez de Cléo, votre fille. Et
non,
Tom,
pas à 21h, non. Non.
Elle est déjà couchée par Aurélie, la maman. Bah,
vous terminez à 21h, vous arrivez, c'est 22. Hein, donc,
Et là, vous faites quoi pour vous détendre ?
Bah, je fais quoi ? Je dîne avec ma femme. Voilà. Après, vous avez les week-ends, où les week-ends, là, effectivement, on essaye de se garder du temps en famille, de voir des amis, de profiter de la table, d'un bon repas. Moi, j'adore cuisiner, de sortir une bout de bouteille, et puis, de profiter de la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Hein, et puis de profiter des enfants, voilà, c'est clair.
Ah. Le pays où vous avez envie d'aller ?
À chaque fois, j'oublie son nom.
Nouvelle-Zélande ?
Voilà, merci. Nouvelle-Zélande.
You're welcome.
Je sais pas, il fait rêver ce pays.
Ah, comme ça ?
Ouais.
Vous n'êtes pas à regarder les images, tout, c'est juste le nom ?
Ouais.
Ou les rugbyman ?
Non, j'en ai vu deux, trois. J'ai vu deux, trois images. Ah. Ça fait rêver, quoi, je trouve. Voilà. Et c'est tellement reculé que, je sais pas, il y a un côté inatteignable qui m'attire, du coup. Ouais.
Ah. Le livre de chevet ?
Gaston Lagaffe.
Toujours ?
Toujours.
Jamais un livre de pâtisserie ?
Non.
Non.
Hein ? J'en regarde très peu.
Et en dehors de la pâtisserie, donc, il reste le rêve de la Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Gaston Lagaffe pour se détendre.
C'est ça.
Avec vos mains.
Un barbecue.
Vous ne faites pas de maquettes en balsa, mais vous faites du bricolage.
Non, non. Alors après, je me suis mis au piano il y a un moment. Et j'avais arrêté quand je suis arrivé au Shangri-La. Donc ça fait un moment que j'ai arrêté. Et je voulais absolument m'y remettre. Et je suis toujours parmi. Donc, mais je voudrais reprendre des cours.
La moto, vous continuez ?
La moto, je continue.
C'est votre moyen de locomotion ?
Pas tout le temps.
Ah ouais.
Non, ça peut être métro, voiture, moto.
D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter que vous n'auriez pas dite ou au contraire que vous voulez insister dessus pour ceux qui nous écoutent?
Je sais pas, qu'est-ce qu'on a oublié? On a tout dit?
On a fait les techniques, Bon, on n'a pas parlé de votre actrice préférée, Sophie Marceau, ni d'Harrison Ford. Harrison Ford, c'est pour le fouet?
Non, Harrison Ford, c'est... Moi, ce qui me plaît, c'est... En fait, ce que j'aime dans la vie, c'est le côté efficacité, sans se...
Humilité.
Ouais.
Ah, son petit sourire, là. Ouais. Sous son chapeau.
Ouais.
Et puis, un super film au cinéma quand il est sorti.
Ouais.
Parce que c'était impressionnant.
Ouais. Non, puis, et en fait, voilà, je trouve que c'est un mec qui est hyper humble, qui a une carrière de dingue. Et c'est un super acteur. Je trouve qu'il arrive à mettre de l'action avec de l'humour, de la détente. Et moi, ça, j'adore, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de pas. De rester dans la détente, en fait. Ça, je pense, c'est hyper important, quoi.
D'où votre héros dans la fiction, qui est Jack Sparrow.
Ouais, grave.
Pirate des Caraïbes.
Exactement. Ah. Détente.
Et au côté héroïne, Béatrix Kiddo, alias Black Mamba dans Kill Bill. Ouais, c'est vrai qu'elle a une très bonne détente.
Non, mais l'angoisse. Et tu sais que je suis allé, lors de mon tournage à Los Angeles, on a failli faire la scène où on était dans le food truck dans le désert devant l'église où elle a fait le massacre.
Ah.
Donc je suis allé dans l'église où elle a fait le massacre. Non, mais là ce qui me plaît, c'est que c'est une des glingos, quoi. Là c'est son côté un peu fou, quoi. Et puis c'est une scène que j'aime beaucoup, qui m'a fait marrer, quoi.
Voilà. Non, et puis c'est, rassurez-vous, ouais. Vous qui écoutez, c'est pas une obsession chez François Perret, parce que quand on lui demande son chanteur préféré, ouais. Il répond...
C'est ça, c'est hyper varié, tu vois. C'est hyper varié. Je suis pas focalisé que sur de l'action ou non. Moi, j'aime voilà aussi bien le rire que l'action, que voilà. C'est après voilà. Hein, je pense que après, je bricole beaucoup quand même. J'ai fait un banc notamment pendant le confinement qui est magnifique. À l'occasion, je te montrerai.
Volontiers.
Un banc en bois extérieur, que sur de la récup de palettes. D'ailleurs, je pense que si j'avais pas fait pâtissier, j'aurais fait ébéniste. Ouais. Parce que je trouve que le travail du bois, c'est magique. C'est une odeur qui est superbe. Et en fait, entre mes deux boulots à Paris, non, entre mes deux boulots à quand j'étais à Bourg-en-Bresse et que je suis parti à Grenoble, j'ai travaillé un mois dans une ébénisterie.
Ah, voilà aussi. Pourquoi ouais. Les lignes longiligne,
ouais,
comme ça.
Alors peut-être, mais c'est vrai que et le travail du bois, je trouve que c'est, et l'odeur, c'est magique, je trouve, hein, en tout cas. D'ailleurs, là, j'ai déménagé il y a pas longtemps. J'ai absolument voulu faire mon parquet et mes marches d'escalier par un menuisier. C'est un menuisier qui m'a fait les marches et tous mes placards intégrés. Je voulais pas que ce soit fait du. Voilà. J'avais envie de faire travailler un menuisier. Et d'ailleurs, franchement, c'est magique.
L'artisanat est magique. Hein.
Ouais, non, c'est un très beau métier.
C'est pas mal aussi, hein, dans ouais. Son artisanat pâtissier.
Non, mais bien sûr. Mais je trouve que le travail du bois, c'est un très beau métier. Ouais.
Bon. Merci de nous avoir reçu.
Merci à toi.
De nous avoir raconté tout ça.
On n'a pas parlé des dates importantes.
Les dates importantes, c'est vos enfants.
Voilà.
Bah, vous avez du cœur, on le sait.
Allez. Merci, Franck. Ah, il est bon. Allez.